ils sont français, ils ont appris ce qu'était la liberté, le choix personnel, l'autonomie, et ils ont appris qu'ils n'ont pas à s'excuser d'être différents. Ensuite, ils sont dans un processus aussi qui ne leur est pas particulier. Actuellement, les versions les plus conservatrices des religions ont plus de succès que les versions plus libérales.
Depuis plusieurs années, on observe une progression de la pratique religieuse chez les musulmans de France, particulièrement chez les jeunes. Une étude de l'IFOP pour la Fondation Jean Jaurès auprès des musulmans indique par exemple que 40% des 18-24 ans déclarent se rendre à la mosquée le vendredi. En 2011, il n'était que 23%. D'autres indicateurs de cette enquête sont encore plus éloquents. 70% des moins de 25 ans pensent que l'interdiction du voile intégral est une mauvaise chose. Ils sont 57% chez les 25-49 ans. Et 71% des jeunes observent le ramadan strictement, contre 53% des plus de 50 ans.
Concrètement, je prie, je jeûne durant le mois de ramadan et j'essaye tant bien que mal de vivre ma religion sereinement.
Un retour à l'observance religieuse qui interroge et qui est probablement multifactoriel. Quête de spiritualité, besoin d'appartenance, réflexe identitaire, sentiment d'abandon par la République, retour du puritanisme ou attrait pour un islam conservateur, voire radical, dont les images sont véhiculées sur les réseaux sociaux. Sans doute est-ce tout cela à la fois.
Quand nos parents sont arrivés, moi c'est dans les années 70, il n'y avait pas un islam aussi développé. Il n'y avait pas de boucherie halal, il n'y avait pas toutes ces choses-là. On s'en fichait un petit peu parce qu'il n'y avait pas beaucoup de pratiquants, surtout les jeunes, ils ne pratiquaient pas trop. Et puis, plus on avance et plus finalement on se rend compte que les conditions dans lesquelles on vit nécessitent de s'accrocher à quelque chose de spirituel.
La République s'interdit pour le moment d'établir des statistiques sur l'appartenance religieuse des Français. On ne peut donc que se référer à quelques études, plus ou moins sérieuses. Selon l'Observatoire de la laïcité, il y avait en 2019 plus de 4 millions de musulmans en France. D'autres évaluations évoquent jusqu'à 8 millions, un nombre qui devrait de toute façon augmenter dans les prochaines années. C'est pourquoi, loin des polémiques instrumentalisées par la politique, il nous a paru nécessaire de mieux connaître en profondeur, intimement, cette jeunesse qui se réclame de la religion. En ce matin d'hiver, Géraldine Allot et Laurent Macchietti se retrouvent à Tremblay, en Seine-Saint-Denis.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
Nous sommes en train de marcher sur le sol gelé d'une forêt. Une forêt en plein centre-ville, c'est assez étonnant pour une commune de banlieue parisienne. Ici, c'est Tremblay en France, qui a une forêt de 70 hectares en plein centre-ville. Tremblay en France, 36 000 habitants, dont une très importante communauté maghrébine et musulmane que l'on va rencontrer. Nadia ? Oui ? Oui, on est arrivé là, on est à côté du restaurant libanais. Ok, on arrive. Ça marche, à tout de suite.
Bonjour.
Vous êtes Nadia ?
Oui, c'est moi-même, Nadia.
Merci de nous recevoir.
Je vous en prie. Bienvenue.
Où est-ce que vous voulez qu'on se mette pour faire l'interview ?
On va se mettre à l'étage.
Ok.
Pour être tranquille.
Vas-y, merci. Nadia, vous travaillez à la mairie de Tremblay en France et vous êtes musulmane et vous avez répondu à notre appel à témoignage pour témoigner de comment vous vivez votre religion et comment vous vous sentez en France. Comment vous pratiquez votre religion au jour le jour ?
Concrètement, je prie, je jeûne durant le mois de ramadan
Et j'essaye tant bien que mal de vivre ma religion sereinement.
Là, vous êtes fonctionnaire, donc vous ne portez pas le voile quand vous travaillez. Est-ce que vous le portez en dehors ?
Oui, donc je suis fonctionnaire, donc je le porte pas. J'ai aucun souci avec ça. J'ai fait des études pour pouvoir travailler. Et je sais pertinemment qu'en France ou dans la majorité des pays européens, il est difficile aujourd'hui et de travailler et de porter le voile. Et c'est une chose que je peux comprendre. Et ça m'a jamais dérangée, et ni mon entourage. Je le vis très bien.
Vous disiez tout à l'heure, je vis ma religion tant bien que mal. Qu'est-ce que vous entendez par là ?
Alors c'est vrai que depuis quelques années, j'ai l'impression, après c'est un sentiment que j'ai, qu'aujourd'hui c'est plus difficile de vivre sa religion librement. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que c'est devenu pesant. Parce qu'évidemment, je fais tout à fait la différence entre ce qui s'est passé, donc les événements horribles auxquels on a assisté, tels que les attentats. Je fais totalement la différence entre ce qu'ils prônent et ce que prône l'islam. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a réussi à définir l'islam comme une religion qui fait mal. Aujourd'hui, ça devient vraiment de plus en plus lourd à porter cette religion. C'est le regard des gens, c'est le fait d'associer cette religion à de la violence, à de la soumission, surtout moi en tant que femme. Sans le vouloir, certains nous montrent qu'on n'est pas à notre place, ou qu'on n'a pas le droit, si on veut vivre en France, qu'on n'a pas le droit de vivre librement sa religion. Et ça se voit à travers des regards, à travers un comportement. Alors, pas ici, donc pas à Tremblay, mais il suffit qu'on s'éloigne un peu de Tremblay, qu'on aille par exemple sur Paris. Et tout de suite, on sent un espèce de mal-être. Voilà, on sent qu'on n'est pas les bienvenus, alors qu'on vit tout à fait normalement. En tout cas, pour ma part, je ne cherche pas à ne pas me mélanger, à rester qu'entre nous. Mais ça gêne. On ne nous parle pas de la même manière qu'on va me parler si je ne porte pas le voile. On va me parler plus poliment quand je ne l'ai pas. Et plus agressivement quand je l'ai.
Quand on préparait cet entretien, vous me disiez par téléphone, parfois j'ai honte. Honte de quoi ?
En France, j'ai honte de porter le voile. Dans le sens où je préfère me faire discrète pour éviter les regards, pour éviter les remarques désobligeantes. J'ai pas envie de faire face à ça. Donc oui, un sentiment de honte.
Est-ce que vous comprenez ce climat qui peut y avoir de crispation, alors pas autour du voile, mais parfois autour de la religion, parce qu'il y a eu des vagues d'attentats au nom de cette religion ?
Oui, et puis les gens ont peur, et j'ai moi-même peur. Ce ne sont pas les non-musulmans qui sont touchés par cette vague d'attentats, mais c'est tout le monde, toute religion confondue, toute origine confondue, donc moi-même j'ai peur.
Super. À tout de suite, D'accord, merci.
Étage 4.
Merci de nous recevoir.
C'est à moi. Venez, c'est vous.
Bonjour.
Bonjour.
Vous avez envie de fiancer ?
Bonjour.
Enchantée.
Bonjour, simplement vous, je me prends mon masque.
Alors bonjour, je m'appelle Soukaina, j'ai 24 ans, je suis tremblaisienne. Je suis étudiante en troisième année d'école de journalisme et en sciences politiques. Mes parents sont d'origine marocaine, de confession musulmane, et je suis née en France.
Comment au jour le jour vous pratiquez votre religion ? Est-ce que vous priez tous les jours ? Est-ce qu'il y a des choses que vous faites et des choses que vous ne faites pas ?
Alors, en soi, le plus important, c'est-à-dire les 5 piliers de l'islam, tout ce qui est ramadan, tout ce qui est l'aumône, enfin tout ça, je le pratique.
Est-ce que c'est quelque chose que vous affirmez, vous en parlez ouvertement ?
Absolument. Oui, bien sûr. Ah, je me suis jamais cachée de ma religion. J'en parle ouvertement et je le revendique. Et peu importe la période, hein, enfin il y a eu aussi une période, c'est quasiment tous les jours, mais Il y a eu un moment où c'était très compliqué pour nous en tant que musulmans, avec tout ce qui se passait, avec les attentats, etc. Donc c'est vrai qu'il y en avait beaucoup qui se cachaient par rapport à ça. Et moi, non, j'ai toujours dit ouvertement. Et j'ai toujours revendiqué, avec fierté. Mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est très compliqué pour nous. Parce que quand on se fait taper dessus à longueur de journée et qu'on nous colle une étiquette et qu'on se doit de se justifier en permanence, systématiquement, c'est pesant. Il y a 2 ans de là, si vous m'aviez demandé si je compte rester en France et vivre en France, je vous aurais dit oui, j'adore la France je compte rester ici, vivre ici, avoir mes enfants ici. Mais là, depuis quelques temps, je songe à partir, à quitter.
Pourquoi ?
Parce que j'ai l'impression de ne pas avoir ma place ici. Et j'ai aussi l'impression que ma famille n'est pas en sécurité. Ma mère porte le voile. Elle ne se sent pas en sécurité. Elle est tout le temps à la maison. Quand on lui propose d'aller sur Paris, elle a constamment peur avec tout ce qui se passe. Elle m'a dit non, moi je pars. Je dépasse pas la ville, je dépasse pas le quartier. Vous avez vu ce qui s'est passé. Il y a eu 2 femmes qui ont été violemment agressées par des chiens. Et des chiens, les propriétaires étaient racistes, islamophobes. Et non, moi je ne pars pas à Paris. Donc vous imaginez, dans un pays démocratique et libre, les individus, enfin une partie d'une communauté, ne se sentent pas en sécurité et ont peur de sortir. Enfin.
Et vous, c'est votre cas ?
Moi, parfois j'ai peur. J'ai peur parce que... Alors, j'ai peur pour ma mère, qu'il lui arrive quelque chose parce qu'elle porte le voile. Mais j'ai peur aussi pour moi de tomber sur un fou qui s'attaque, qui s'acharne sur moi parce que j'ai une tête d'arabe et que je mets des talons, que je porte des robes et que j'ai les cheveux lâchés. Donc ouais, ça me fait peur. Bah, là, en l'occurrence, quand j'étais dans le train et qu'il y avait un mec barbu qui arrivait, en face de moi, je me suis dit bon. Donc en fait, on a peur dans les 2 sens. On porte le voile, on a peur. On ne porte pas de voile, on a peur.
Vous êtes pris en étau, en fait, on a l'impression, c'est ça ?
C'est ça.
Alors comment sortir de tout ça ?
Changer de pays. Changer de prénom, j'en sais rien. Mais oui, enfin, je songe à partir.
Pour aller où ?
Je sais pas, peut-être les Émirats. Les Émirats, peut-être. Bon, même si après, je suis pas du tout associée avec leur politique géopolitique. Pas du tout, mais je sais qu'à là-bas, je peux pratiquer ma religion ouvertement. Et je me sentirai en sécurité. En tout cas, dans un pays musulman.
On est arrivé, là, on est juste devant le sapin de Noël qu'ils ont toujours pas enlevé. Ok, pas de souci, on vous attend. À tout de suite.
Alors, moi, c'est Ismaili Wassil. Voilà, j'ai 21 ans, bientôt 22, dans un petit mois. Je suis actuellement étudiant en licence d'éco-gestion, donc j'ai bientôt fini mon cursus, on espère, d'ici quelques mois. Je suis quelqu'un qui est assez sportif dans la vie, qui aime bien voyager, voilà, qui a quelques hobbies. Moi, je suis musulman, pratiquant, c'est-à-dire que je fais mes 5 prières par jour. Voilà. J'effectue le mois du ramadan et je me rends à la mosquée de temps en temps quand j'ai le temps. Voilà.
Vous buvez de l'alcool ?
Je bois pas d'alcool.
Et vous mangez halal.
Exactement.
Est-ce que parfois, c'est des choses que vous questionnez, vous dites ça fait trop de règles, ou c'est quelque chose que vous avez complètement intégré à votre vie ?
Alors, donc ça, moi, j'ai jamais été forcé par mes parents. Ça part vraiment de mon idéologie de la vie.
Vous avez 2 frères, c'est ça ?
Exactement.
Et vous êtes celui du milieu ?
Oui, c'est ça.
Et tout le monde est croyant et tout le monde est pratiquant ?
Exactement, c'est ça.
Est-ce que dans votre fratrie, vous auriez pu dire à vos parents ou vis-à-vis de la société ou de la communauté ou de la ville, non, moi finalement, je suis de culture musulmane, mais je ne crois pas.
Honnêtement, je me serais mal vu dire ça. Je me serais peut-être senti un peu rejeté, donc je l'aurais sûrement gardé pour moi. Voilà, si c'était le cas, mais là, c'est pas le cas. Une baisse de foi, ça peut arriver à tout le monde. Voilà, donc moi le premier. Donc quand ça arrive dans notre entourage proche, on essaye tout simplement de se rebooster et d'en parler entre nous pour pas que quelqu'un s'égare.
France Inter. Interception.
Cette religiosité assumée, voire revendiquée, peut surprendre dans une tranche d'âge qu'on imagine plus avide d'expérience et d'insouciance. Alors on est allé demander à Sadio Konaté ce qu'il en pensait. Sadio Konaté est travailleur social à Tremblay, au sein d'une association de lutte contre le décrochage scolaire. Il a 45 ans et lui aussi est musulman.
Moi je pense qu'aujourd'hui les jeunes, dans la revendication identitaire qu'ils ont, il y a une ablation d'une partie d'identité qui a duré pas mal de temps. Et aujourd'hui, ils ont décidé de dire non, ça y est, c'est bon. Cette partie d'identité fait partie de notre intégrité et on va pas accepter de dire ok, on va faire comme les anciens. Quand nos parents sont arrivés, moi c'est dans les années 70, il n'y avait pas un islam aussi développé. Les mosquées c'était des caves, il n'y avait pas de boucherie halal, il n'y avait pas toutes ces choses-là. On s'en fichait un petit peu parce qu'il n'y avait pas beaucoup de pratiquants, surtout les jeunes, ils ne pratiquaient pas trop. Et plus on avance et plus finalement on se rend compte que les conditions dans lesquelles on vit nécessitent de s'accrocher à quelque chose de spirituel. Parce que à partir du moment où on vit le chômage, où on vit la pauvreté, où on vit ces choses-là, soit c'est les médicaments, ou soit on va arriver sur quelque chose de très spirituel qui va combler et qui va donner l'espoir. Et je me dis heureusement qu'il y a ça dans les quartiers encore. Parce que sinon, avec tout ce qui s'y passe, ça aurait été la révolte.
Vous nous expliquez donc pourquoi il y a plus de pratiques, en tout cas plus affirmées chez les jeunes musulmans, parce que sentiment de relégation sociale. Ça, c'est pour la version de l'islam qui ne pose pas de soucis. Pour tout ce qui est islam radical, et c'est un problème également en France, ça, comment vous l'expliquez, la recrudescence de l'adhésion à cet islam-là ?
Il y a eu, avec les vagues d'immigration, un islam qu'on connaissait en France. C'est parce que lorsque l'Algérie était française pendant 150 années, il pratiquait déjà. Donc il y avait une connaissance de cet islam. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un islam qui est venu d'une autre zone, plutôt la zone de l'Arabie, qui est venu même contrebalancer l'islam chez les Maghrébins. Ça veut dire que même j'ai pu voir des enfants dire « Papa, t'es dans l'erreur ». Et donc il y a eu ce nouvel mode de pensée conservateur qui a créé justement ce conflit dans les années 90, dans les mosquées, dans les familles.
Concrètement, ça s'est matérialisé comment ? C'était des imams formés en Arabie Saoudite ? C'était des livres traduits
Il y avait pas mal de financements qui venaient justement de ces pays pour étendre justement ce nouveau mouvement. Donc il y a eu toute cette confusion aussi qui a été alimentée dans les mosquées. Et puis les petits jeunes, justement, eux, ils prennent. Ils n'ont pas connu l'islam des années 80, ils n'ont pas connu tout ça. Donc ils naissent maintenant dans cette période, ils pensent que ça a toujours été comme ça. Et puis aujourd'hui, la chose la plus terrible, en fait, c'est la toile virtuelle, en fait. Vraiment. Parce qu'avant, il y avait possibilité quand même, tout le monde n'aimait pas forcément lire. C'était un peu compliqué, mais aujourd'hui, c'est tellement simple. Toile virtuelle, on allume, il suffit qu'il y ait une vidéo de propagande. Une fois, je la regarde une fois, deux fois, 100 fois, 20 fois. Et comme je vous expliquais, la frustration quotidienne va créer justement ces dérives. Si aujourd'hui, des gens se sentent exclus, se sentent rejetés, écoutent des gens de l'extérieur qui disent « la France vous aime pas », ben ça va coïncider avec la pensée des jeunes. Mais qu'est-ce que la France aujourd'hui met en place pour pouvoir faire en sorte que ces enfants, lorsqu'ils entendent le discours de dire « la France ne vous aime pas », puissent dire « non, c'est pas vrai ».
On parle beaucoup de l'embrigadement de certains jeunes par les filières djihadistes. David Valla a aujourd'hui la cinquantaine. Impliqué dans la filière dite de chasse sur Rhône, il est arrêté en France après les attentats de 1995. Pendant ses 52 mois de détention, il rompt avec l'idéologie radicale et se réinsère dans la société. Son expérience reste précieuse pour décrypter les mécanismes qui poussent les jeunes Français dans les bras des djihadistes, raison pour laquelle Géraldine Allot a rendez-vous avec lui.
Quand vous êtes exposé à un verbe depuis gamin qui vous dit que les chrétiens sont des égarés, que les juifs ont couru de la colère d'Allah, que les mécréants sont unis et réunis pour lutter contre l'islam et les musulmans, vous vous construisez un univers mental vous allez finir par le valider, parce que un individu ne peut pas se priver d'avoir un univers de sens. Et la matière première avec laquelle il va le construire, ce sera la littérature à laquelle il aura accès. Donc si nous laissons des gens sans contre-discours, sans opposer d'éléments d'opposition à la doctrine islamiste, ben, nous avons une jeunesse qui pourra s'y laisser tenter, parce qu'elle propose une lecture du monde globale, avec un révisionnisme historique, mais ça peut prendre sens dans l'esprit de jeunes qui n'auraient pas les ressources culturelles et pédagogiques nécessaires. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les islamistes entendent décrédibiliser l'école, en mettant la pression aux professeurs également, de sorte que les gamins n'aient plus accès à cette possibilité de valider le savoir plutôt que le croire.
Il n'y a pas forcément, même peu souvent, de corollaire entre une pratique religieuse intensive et un passage à l'acte djihadiste. Souvent, ceux qui font des attentats avaient découvert la religion quelques mois plus tôt.
Il n'y a pas forcément de lien, effectivement, entre une pratique ultra rigoriste, sauf que, quoi qu'on en dise, le salafisme, qui se prétend être rigoriste, intégral en tout cas, c'est quand même l'antichambre du djihad, parce que quand vous commencez à considérer l'autre avec du mépris, avec de la distance, avec quelque chose qui vous fait penser comme plus pur ou plus digne ou plus pudique que lui, on commence à rentrer dans une idéologie de détestation ou de distanciation qui ne basculera pas forcément dans quelque chose de violent, individuellement, mais collectivement, on voit se créer des enclaves de jeunes qui ne fréquentent plus la salle de sport du quartier, le cinéma, le café, et vivre en autarcie. Et ça peut être le corollaire ou le prémisse à un passage à l'acte violent. Ça n'est pas une fatalité. Mais on sait aujourd'hui que, trois quarts des djihadistes actuels ont été salafistes. Tous les salafistes ne deviennent pas djihadistes, mais l'immense majorité des djihadistes ont été salafistes.
Pour autant, est-ce qu'on doit s'inquiéter d'une grande religiosité chez certains jeunes musulmans ?
Encore une fois, tout dépend de ce qu'ils y mettent. Est-ce qu'ils entendent pratiquer un islam spirituel stricto sensu ? Et ne pas sortir, ne pas boire d'alcool, ne pas fréquenter avant le mariage, ne pas vivre autrement qu'en gagnant sa vie, parce que tout ça aussi appartient à l'islam. Moi, je trouve rien d'inquiétant. Quand vous avez plusieurs identités, que vous êtes citoyen français, que vous êtes issu de telle famille, de tel quartier, de telle rue, que vous avez telle fonction dans la société, l'islam va être une carte supplémentaire à votre jeu d'identité. Mais si vous n'avez qu'une seule identité, c'est là où il y a un risque de dérive et de confrontation avec l'identité des autres, que vous ne reconnaissez pas.
Mesdames, Messieurs, dans la zone Strasbourg,
vous êtes Anne-Sophie Lamine ?
Oui, c'est cela. Bienvenue.
Merci de nous accueillir.
Écoutez, avec plaisir. J'espère que vous n'avez pas été trop trempée.
Alors, c'est vrai qu'avec le Covid, on s'invite chez les gens.
Oui, il faut que vous fassiez votre métier. Alors, Anne-Sophie Lamine, je suis sociologue, professeure des universités et chercheuse à Strasbourg, à la Faculté des sciences sociales et au laboratoire SAGE. Mes travaux portent sur le fait religieux et en particulier sur l'islam et les musulmans en France, mais aussi bien dans mes travaux que dans mes enseignements, de pouvoir comparer aussi différents groupes religieux m'intéresse.
Sur les jeunes musulmans, est-ce que l'on peut dire, comme on l'a entendu un petit peu plus tôt dans ce reportage, qu'ils sont plus croyants, plus pratiquants que leurs aînés, plus enclins aussi à l'affirmer ?
Effectivement, une partie d'entre eux, qui est assez visible d'ailleurs, l'affirme davantage, et pour des raisons qui sont un peu complexes, qu'il faut expliquer. Ce n'est pas propre aux jeunes musulmans. Des enquêtes un peu longues, sur des grands échantillons, ont montré, l'enquête Trajectoire et Origine notamment, qu'il y avait une vraie similarité entre l'intensité religieuse ou l'attachement à la religion chez des jeunes juifs ou chez des jeunes musulmans. Donc il y a un effet aussi sur ce phénomène, il y a un effet religion minoritaire, si on peut dire. Peut-être aussi, ou certainement aussi, un effet, comme aurait dit le poète, Heine disait ça, la patrie portative. Il y a un effet aussi d'être descendant de migrants, d'avoir des grands-parents ou des arrière-grands-parents d'autre part. Et ça, cet effet, on va le retrouver, par exemple, chez des catholiques d'origine européenne et qu'on compare avec des catholiques d'origine soit des territoires d'outre-mer, soit d'Afrique, par exemple, subsaharienne. Et là, il y a aussi une énorme différence, c'est-à-dire que ceux qui viennent d'ailleurs sont plus que 3 fois plus religieux que ceux qui viennent d'Europe.
Vous le dites vous-même que les jeunes musulmans ont une pratique religieuse plus affirmée que leurs aînés. Pourquoi ?
Eh bien, parce que finalement, ils sont français. Ils ont appris ce qu'était la liberté, le choix personnel, l'autonomie, et ils ont appris qu'ils n'ont pas à s'excuser d'être différents, et c'est un des éléments, bien sûr, c'est pas le seul. Ensuite, ils sont dans un processus aussi qui ne leur est pas particulier. Actuellement, les versions les plus conservatrices des religions ont plus de succès que les versions plus libérales. Comment on peut l'expliquer ? Un des éléments, c'est certainement qu'on est dans des situations aujourd'hui plus complexes, où il y a plus d'incertitudes, et que la religion nous offre à la fois un groupe, un certain nombre de valeurs. Il y a évidemment une recherche de spiritualité. Il peut y avoir de l'affirmation de soi, et même un retournement du stigmate, c'est-à-dire, comme on disait, « Black is beautiful, Islam is beautiful ». Donc ça, bien sûr que ça peut jouer. Quand on est jeune, c'est quand même le moment, la fin de l'adolescence et le début de jeune adulte. Ça peut être un moment où on est à la fois très contestataire. Et donc, effectivement, on peut trouver chez certains jeunes musulmans un usage aussi de sa religiosité, de son identité religieuse, à la fois pour s'affirmer, mais aussi pour contester. Et à la limite, par rapport à leurs interlocuteurs, plus l'islam t'inquiète, plus mon islam t'inquiète, plus j'en rajoute.
Dans le contexte qu'on connaît, depuis 2012, il y a eu des vagues d'attentats qui ont endeuillé la France, dont les auteurs se réclamaient de l'islam. Donc comment le reste de la société perçoit cette jeunesse musulmane ?
Alors, il est relativement négatif parce qu'on est quand même marqué par une idée un peu dualiste par rapport à la religion, c'est-à-dire que on est marqué en France à la fois par un héritage des Lumières, mais on a eu des Lumières quand même assez anti-religieuses par rapport à d'autres pays européens. Par ailleurs, on a aussi une sorte d'imaginaire d'unité qui est avec notre matrice culturelle catholique, même si, bien sûr, on est très sécularisé. Donc tout ça, ça fait une matrice culturelle dans laquelle le rapport au religieux est conflictuel, puisqu'il y a eu ce rapport entre Église catholique et République qui a été conflictuel, sans compter les guerres de religion. Et du coup, on a une image du religieux comme étant source de conflit et aussi, ça fait partie de l'héritage, d'un certain héritage des Lumières, aussi comme étant aliénant.
C'est sous un grand soleil que nous arrivons à Yssingeaux, sous-préfecture de Haute-Loire, située entre Saint-Étienne et le Puy-en-Velay. Nous avons rendez-vous à la mission locale qui aide les jeunes de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire ou universitaire, à trouver un emploi ou une formation. La mission locale d'Yssingeaux a mené une étude à l'automne dernier, financée par l'Union européenne, sur le ressenti des jeunes musulmans, comment ils se sentent dans la société. Une étude similaire a été réalisée en Italie et en Espagne. Valérie Cartinier, la coordinatrice de la mission locale d'Yssingeaux, a réalisé la partie française de cette enquête. Elle a mené de nombreux entretiens et organisé des groupes de parole. Parmi les jeunes qu'elle a interrogés, il y a Aïcha.
Interception sur France Inter.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes Aïcha ?
Oui, c'est ça, Aïcha.
Enchantée.
Enchantée.
Et vous êtes son
conseiller ? Je suis Fabrice, vous êtes son conseiller de la mission.
Merci de venir jusqu'à nous.
Approchez-vous. C'est à vous.
Ça va, Aïcha, pas de stress?
Non. Je me présente, Seignane Aïcha. J'ai 23 ans. Je suis étudiante. Je suis en train de faire une licence en ressources humaines. Je suis en mission de service civique en tant que chargée de mission pour promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, lutte contre les discriminations. Et je suis en garantie jeune aussi à la mission locale du Puy-en-Velay.
Aïcha, pourquoi vous avez accepté de participer à cette étude sur le ressenti des musulmans en France?
Pourquoi j'ai accepté? C'est parce que il y a un moment où quand tu arrives dans ta vie, par exemple à mes 22 ans, là, j'ai dit franchement, faut que j'essaie de voir c'est quoi ma religion, faut que j'essaie de comprendre c'est quoi l'islam, parce que moi je comprends pas. Les gens, ils vont dire par exemple, je mange pas de porc. Moi, je sais pas pourquoi je mange pas de porc. Si tu me demandes, je le mange pas, c'est vrai. Mais si on me dit pourquoi tu manges pas de porc, je saurais pas expliquer parce que je ne connais pas. On me dit tu dois pas boire de l'alcool. Ok. Mais c'est quoi l'explication? Moi, je ne saurais pas le dire. On va me demander de prier 5 fois par jour. Je vais me tenir debout. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais même pas c'est de quel côté, gauche ou droite. Je ne sais pas. Et puis, bah, il y a le voile. Ça aussi, je ne comprends pas trop.
Et vous ne le portez pas, le
non,
voile?
Non, moi, je ne le porte pas. Parce que je ne comprends pas. Je ne connais pas les significations. Et puis, il y a aussi les trucs de partir à la Mecque. Tout ça, je ne connais pas. Je ne sais pas lire le Coran. Je ne sais pas lire, donc je ne connais rien de ma religion.
Ce que vous dites, c'est qu'on vous a transmis plus le dogme et les interdits que les valeurs spirituelles,
les valeurs
de l'islam.
Voilà. Et d'expliquer c'est quoi l'islam et puis c'est quoi la religion, c'est quoi le prophète, c'est quoi plein de trucs. Je pense qu'il y a du boulot.
Donc là, vous êtes en pleine quête, en fait.
Ouais, moi, je suis en pleine quête. Bah, là, j'ai eu 23 ans, mais à mes 22 ans, là, récemment, là, c'était ça ma quête. Je cherchais un peu partout pour savoir c'est quoi. On m'a transmis cette religion parce que mes parents le sont et tout. Mais moi, au fond, je ne sais pas c'est quoi. Il y a trop de choses que je ne connais pas. Et je pense qu'il y a d'autres jeunes aussi qui sont à ma place et qui ne connaissent pas aussi.
Au fond de vous, vous vous sentez croyante ou pas?
Oui, j'ai la foi. Oui, je crois en quelque chose. Oui, j'ai la foi, oui, je crois. Mais c'est pas trop clair au fond de moi.
Si vous voulez un café, il y a une machine, vous avez juste à appuyer, vous vous servez. Ça marche?
Merci.
N'hésitez pas.
Merci. À tout à l'heure.
Bonjour Mohamed.
Bonjour. Donc, bah, merci à vous de vous être déplacé jusqu'à nous, ici en Haute-Loire. Pour ma part, donc. J'ai 26 ans, je suis responsable d'un secteur jeune à la MJC d'Aurec-sur-Loire et j'ai décidé en fait de participer à ce témoignage parce que ça me tenait à cœur et je voulais qu'on puisse enfin avoir la parole et dire ce qu'on pensait et ce qu'on vivait un petit peu parce qu'on entend beaucoup de personnes parler de la religion musulmane mais nous, les musulmans, n'étaient pas forcément concernés. Comme je le dis souvent, en fait, pour moi, l'islam, c'est une religion de paix, d'amour, de fraternité, de respect. Ça m'a permis en fait d'avoir une éducation mais vraiment très riche, de m'ouvrir sur l'extérieur. C'est quelque chose qui m'apaise. En fait, je trouve un équilibre et en fait, ça me permet de pouvoir grandir et m'enrichir, mais vraiment, vraiment beaucoup.
Vous avez une pratique de l'islam très ouverte, très spirituelle. À côté de ça, dans la société, il y a aussi une montée de l'islam radical. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, pour ma part, c'est pas que je veux avoir les yeux fermés ou quoi que ce soit, mais en fait, je pense que c'est une petite minorité. Ça existe malheureusement, mais pour moi, je pense qu'on est pratiquement 6 millions de musulmans en France. Et si on en interroge beaucoup, vous verrez qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui défendent les valeurs de la République. Et cette catégorie-là, en fait, qui est vraiment majoritaire, eh ben, on la voit pas. Et c'est la minorité, malheureusement, qui est comme de partout, tout le temps visible. Et ça, je trouve que c'est. D'un côté, ça nous déstabilise, nous, en tant que musulmans, parce que. On est tout le temps confronté en fait au regard des personnes et à se justifier d'actes qu'on n'a pas commis. Moi, le premier, en tant que musulman, j'aurais pu être au bar à Paris ce jour-là et boire un café ou manger au restaurant et me faire tuer par ces terrorismes-là. En fait, ils ne regardent pas la nationalité, ils ne regardent pas la couleur de peau, ils ne regardent pas la religion. Et je pense que moi, c'est pour ça, à travers ce message-là, je veux vraiment faire passer un message d'apaisement et qu'on puisse prôner le vivre ensemble, ne pas regarder nos différences, mais plutôt ce qui nous unit, grandir ensemble. C'est ce qu'on a fait depuis des années et des années. Il faut que ça continue comme ça, sinon. On va arriver là où les terroristes veulent qu'on arrive.
Je me présente Abdelkader Elan, Je suis directeur de la mission locale d'Issingeau, mais bien évidemment j'ai d'autres casquettes. Je suis le représentant du CORA, du Comité Opérationnel de Lutte contre le Racisme et l'Antisémitisme pour le département de la Haute-Loire. Et puis après j'ai encore une autre casquette, je suis écrivain et je donne des conférences un peu partout en France et à l'étranger.
Par rapport à votre génération, vous avez la quarantaine, est-ce que la perception de l'islam a changé ?
Oui, c'est sûr. Alors, la cinquantaine, parce que je vais avoir 50 ans cette année. Et oui, ça a fortement changé parce que, très franchement, il y a 30 ans, j'aurais absolument pas eu ce discours. Il y a 30 ans, j'aurais eu un discours en vous disant que les lois républicaines sont inférieures aux lois divines. Il y a 30 ans, j'aurais revendiqué très fort mon côté musulman. J'aurais revendiqué avec force le fait que je sois d'origine algérienne. J'aurais peut-être même revendiqué plus mon côté algérien que mon côté français. Mais je crois qu'à un moment donné aussi, une identité, elle est mouvante. Voilà. Mon parcours fait que j'ai aimé la France un peu plus chaque jour. Comme j'ai aimé la République, comme j'ai aimé la démocratie un peu plus chaque jour. Parce que je la vivais au quotidien. Et ça, c'est extrêmement important. Et je crois que les jeunes qui aujourd'hui, voilà, parfois vous les voyez avec un survêtement d'Algérie, du Maroc, où j'en passe, avec une revendication très forte, je pense qu'à un moment donné aussi, il y a un cheminement qui va les amener vers après une compréhension plus forte de leur identité. Parce que si on résume les choses, ces jeunes, s'ils étaient très attachés à leur pays d'origine, pourquoi n'y retournent-ils pas ? Ils sont attachés à la France, même si ils ne le crient pas haut et fort. C'est un peu comme des punks. Hein, c'est voilà, je m'identifie autour de ma religion, autour de mes origines. Mais en vérité, si on gratte, on peut voir assez facilement que ces jeunes sont attachés aux valeurs de la République et aux valeurs de la France.
Refusant d'être catalogués en raison de leur religion, de jeunes musulmans ont mis sur pied le programme « Citoyens engagés pour la Concorde », un programme placé sous l'égide de la Fédération ALMA qui fédère 80 associations de quartiers et dont les objectifs sont d'améliorer la vie dans les quartiers populaires, de désamorcer les conflits, de combattre toute forme d'exclusion et de lutter contre les extrémismes idéologiques et religieux qui enferment. C'est à Fos, dans le Val d'Oise, que Géraldine Allot rencontre une des membres de ce programme Citoyens Engagés.
Il y a de la neige qui recouvre les toits des maisons. Nous sommes dans une petite résidence de Fos dans le Val d'Oise et il fait très froid, presque moins 4 degrés. Bonjour, vous êtes Mirsan?
Oui, c'est ça, je vous en prie.
Merci de vous accueillir.
Je vais juste vous demander d'enlever vos choses.
Bah, bien sûr, c'est normal. Et...
je vous en prie, on va vous
faire. Merci.
Je vais juste chercher mon masque.
D'accord.
Je m'appelle Nyandiane, j'ai grandi en France, j'ai effectué des études de sciences politiques à Paris, enfin à Nanterre plus exactement, et par la suite je me suis spécialisée en relations internationales sur le Moyen-Orient, et actuellement j'effectue un service civique dans une association à Paris.
Vous avez quel âge ?
23 ans.
Et vous êtes originaire de Turquie ?
C'est ça.
Pourquoi vous vous êtes lancée dans ce programme des citoyens engagés pour la Concorde ?
La thématique m'avait intéressée dans le sens où c'était vraiment un projet qui englobait tout le monde. Le but étant de proposer une alternative au discours qui existe au sein de la société. Et je voulais en fait qu'on nous entende, nous, en tant que musulmans, que ce soit pas seulement les personnes de diverses extrémités qui se prononcent en notre nom. C'est aussi une révolte, entre guillemets. Enfin, c'est peut-être un grand mot, mais c'est un peu agaçant que d'autres personnes s'expriment à votre place ou qu'on vous tienne responsable de ce que vous n'êtes pas. Et je pense que c'est tout ça, sur le coup, qui m'a un peu poussée à cela.
L'idée, c'est qu'en fait, vous, jeunes musulmans de France, vous preniez la parole dans l'espace public, loin des extrémismes. En quoi consiste ce programme des citoyens engagés, concrètement ?
Dans un premier temps, on a eu de diverses conférences qui nous expliquaient les identités, qui nous poussaient à nous questionner sur notre vie en société et comment les gens pouvaient le percevoir et le vivre également. Et le but étant de produire des contenus vidéo ou écrits, bien sûr, alternatifs à ce qu'on peut entendre. Enfin, moi, personnellement, mon but, c'est pas de me faire connaître en tant que personne, mais de dire que, en fait, ce que vous dites n'est pas réellement vrai. Je suis pas du tout ce que vous décrivez. Oui, certes, j'ai ma croyance, mais ma croyance ne m'empêche pas d'être française. j'arrive à vivre mes deux identités ensemble et je les vis très bien en soi. Enfin, je vois pas en quoi ça se heurte. J'ai grandi ici. Si j'arrive à concilier les deux et que je continue à rester ici, enfin ici du coup en France, parce que bon, on me dit tu peux retourner dans ton pays, mais on l'entend beaucoup. Mais si je reste ici et que j'arrive à vivre tranquillement, donc à concilier toutes mes identités, c'est que je suis à ma place et que je partage des valeurs et que je me sens en fait citoyenne française pleinement.
Dans ce collectif des citoyens engagés, il y a plein de profils différents. Des musulmans très pratiquants comme Nourjane et d'autres qui ont une pratique plus distante comme Farid. Farid est arrivé du Maghreb il y a 8 ans. Il travaille dans le secteur de la finance à Paris. Nous avons changé son prénom à sa demande.
Appelons.
Bonjour.
Oui, c'est France Inter.
Oui, je vais ouvrir.
Merci.
Porte ouverte.
Bonjour, merci de me recevoir.
Ici, on est chez vous ?
Non, je suis chez mon copain.
Donc vous êtes homosexuel ?
Exactement, je suis homosexuel.
Il n'y a jamais eu de soucis, de conflit intérieur au niveau de la religion ?
Ah oui, ça c'est sûr, oui, il y a un conflit d'intérieur. Alors parfois je me dis que voilà, c'est peut-être... Comme ils disent, c'est interdit dans l'islam et que peut-être mon sort, ça serait l'enfer parce que je n'ai pas suivi ce qui a été dit dans le Coran, sachant que dans le Coran, en tout cas, ce qui est légitime en termes de relation, c'est une relation homme-femme et pas homme-homme ou femme-femme. Et donc, il y a cette incompatibilité entre ce qui a été écrit dans le Coran et ce que je vis actuellement.
Vous qui êtes maghrébin en France depuis des années et vous voulez rester en France, l'islam de France, vous le définiriez comment ?
Pour moi, c'est de vivre en cohérence avec la loi française, ça de un. Et c'est quoi être musulman ? C'est juste un mode de vie, c'est une spiritualité qui doit être respectée et on ne va pas l'imposer à nos semblables. Certes, on est libre, on est tous libres, mais la liberté a une limite tant que on n'impose pas à une autre personne notre manière de faire ou notre mode de vie musulman.
Je suis Eva Janadin. J'ai cofondé Les Voix d'un Islam éclairé en 2018 avec Anne-Sophie Moncinet. Et en 2019, nous avons ouvert la mosquée Simorgue, qui a pour particularité de permettre aux femmes de devenir imams, de permettre aussi aux hommes et aux femmes de prier dans la même salle de prière. Et dans le cadre de cette mosquée, le voile n'est pas obligatoire, c'est-à-dire que les femmes ont la liberté de le porter ou non.
Vous avez 31 ans ?
Oui.
Et vous êtes imam, avec un E, vous êtes l'une des 3 imams de France.
Oui, exactement.
Dans ce reportage, nous avons entendu beaucoup de jeunes musulmans de divers horizons qui se disent tous français et musulmans, qui s'inscrivent tous dans la République, à rebours de ce que certains disent en permanence dans le débat public.
Oui, et c'est important de le souligner. En fait, on focalise un petit peu tous ces débats sur la question de l'appartenance à la République, du discours républicain, voire d'un contre-discours républicain qui pourrait permettre de déradicaliser certains musulmans. Et c'est important donc de préciser qu'il y a vraiment cet attachement très fort de la part d'une immense majorité, en fait, des musulmans en France. Mais il y a aussi cet attachement à la religion. Et je dirais que ça pose beaucoup de problèmes en France parce que, en France, on a un petit peu jeté, en fait, l'aspect dogmatique de la religion, je dirais, le cléricalisme, mais aussi avec la spiritualité. Au moment d'un très fort anticléricalisme au début du XXe siècle. Et aujourd'hui, notamment chez les jeunes populations, il y a un besoin de trouver du sens, en fait, dans sa vie, via la spiritualité et notamment via les pratiques. Il y a ces besoins dans les jeunes générations qui n'est pas forcément reconnu et qui effraie beaucoup en France parce qu'on ne sait plus vivre avec Dieu aujourd'hui en France. On ne sait plus vivre dans une société qui a besoin de rites et de cultes.
On a bien compris ce besoin de spiritualité. Ce qui peut étonner, en revanche, c'est que toutes les personnes qu'on a interrogées, elles condamnent avec force, sans ambiguïté, tous les attentats que la France a connus depuis 2012.
En revanche, ils sont peu à admettre que ces attentats ont été commis par les tenants d'un islam dévoyé. Ils disent tous, ces attentats ont été commis par des fous, ce ne sont pas des musulmans. Est-ce que vous comprenez que ce discours peut heurter ?
Oui, je le comprends tout à fait et je pense qu'il y a urgence en fait de la part des musulmans d'assumer le fait que ça fait partie de l'islam. C'est important aujourd'hui de prendre ses responsabilités, ça veut pas dire que les musulmans sont coupables. Donc on n'est pas dans le cadre d'une culpabilité mais d'une responsabilité. Donc il y a une vraie relecture des textes qui doit être faite aujourd'hui pour reconnaître en fait les racines de ce mal. Et les racines de ce mal, elles sont précisément dans les lectures littéralistes, notamment du Coran et également de la Sunna prophétique.
Les mauvaises interprétations.
Oui, des mauvaises interprétations dans le sens où elles vont justifier l'usage de la violence, la discrimination, l'inégalité homme-femme et toutes ces questions-là. Il y a une urgence à contextualiser le Coran et à ne pas avoir peur de le faire parce que ce n'est pas en fait désacraliser le Coran, c'est simplement expliquer qu'il a été révélé à une population, à une société particulière et à une époque particulière. Donc il y a cette urgence-là pour éviter justement de justifier la violence et le refus, le rejet de l'altérité.
Jeunes Français et musulmans, c'était un reportage de Géraldine Allot. Prise de son Hélène Langlois et Laurent Macchetti, réalisation Hélène Bizio, assistée de Martine Messonnier. Mixage Benjamin Vignal. Reportage naturellement disponible sur franceinter.fr dès maintenant. La semaine prochaine, nous vous emmènerons avec Béatrice Duguay dans le sillage des civelles, ces alevins d'anguilles si recherchés qu'ils en sont devenus un produit de luxe. Dans quelques minutes, vous avez rendez-vous avec Eva Bester et son invité, l'écrivain Marc Lévy qui vient de publier « Le crépuscule des fauves » pour « Remède à la mélancolie ».